Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une de l'économie ce matin, les grandes institutions internationales sur le pont contre le coronavirus. Le FMI ne donne pas de chiffres, mais il dit clairement que la situation va pousser la croissance cette année sous le niveau de 2019. L'épidémie touche désormais un tiers des 189 pays membres du fonds. Mieux vaut donc en faire trop que pas assez, disait hier la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui tient prête une enveloppe de 10 milliards d'euros sous forme de prêts à taux zéro pour les pays les plus fragiles qui en feraient la demande. En Europe, les 19 ministres des Finances de l'Eurogroupe se sont, eux, parlé hier par vidéoconférence. Bonjour Hugues Baudouin.
Bonjour Dimitri.
Correspondant de Radio Classique à Bruxelles. Alors on se tient prêt à prendre des mesures budgétaires, Hugues, pour soutenir la croissance, mais rien de concret ni de coordonné pour l'heure, au grand regret de Bruno Le Maire.
Oui, effectivement, la réponse de l'Eurogroupe aux demandes pressantes des ministres français et italiens est qu'il est urgent d'attendre. L'instance de direction de la zone euro n'a pris aucun engagement ni avancé aucun chiffre sur le niveau de la relance budgétaire que souhaiteraient Paris et Rome afin de faire face au risque de récession. Le ministre portugais des Finances, Mario Centeno, qui préside l'Eurogroupe, a néanmoins rappelé que les contraintes budgétaires peuvent être assouplies en cas d'événement exceptionnel, une flexibilité effectivement prévue par les règles européennes. Mais c'était prévisible, cette perspective consistant à laisser filer les déficits a suscité de très fortes réticences du côté de l'Allemagne et des Pays-Bas. Ces deux pays ont tout juste accepté que les organes techniques de l'Eurogroupe préparent différents scénarios pour la prochaine réunion des grands argentiers de la zone euro dans 10 jours. Parmi les options possibles, des mesures ciblées vers les secteurs d'activité les plus affectés par l'épidémie du Covid-19. Comme lors de la crise de l'euro, on a de nouveau l'impression que les États membres renvoient la balle à la Banque Centrale Européenne dont la prochaine réunion est prévue le 12 mars.
Hugues Baudouin à Bruxelles. Merci Hugues. En France, 164 entreprises ont demandé à Bercy la mise en place du chômage partiel. Cela concerne pour l'heure un petit nombre de salariés, 2255. La moitié des entreprises impactées sont en Île-de-France, essentiellement dans le tourisme ou la restauration. Mais c'est le Grand Est, la région la plus touchée en termes d'effectifs. La situation en Chine sur le plan économique est bien plus grave. Selon Markit, l'indice PMI des directeurs d'achat dans le secteur des services, cela mesure le niveau d'activité dans les services, est passé de 51,8 en janvier à 26,5, 50 représentant la moyenne de long terme. Un secteur aussi durement touché, et ce dans le monde entier, c'est l'aérien. La compagnie allemande Lufthansa va immobiliser dès cette semaine 150 de ses appareils, soit un cinquième de sa flotte, en raison de la baisse du trafic aérien mondial. Ce sera peut-être d'ailleurs, cette crise du coronavirus, le coup de grâce pour la compagnie aérienne britannique Flybe. Elle vient d'être placée ce matin en redressement judiciaire. Tous ses vols sont cloués au sol. En janvier, elle avait échappé de peu déjà au dépôt de bilan grâce à un coup de pouce fiscal de Boris Johnson. Enfin, sachez qu'après la Banque Centrale d'Australie et la Fed américaine, la Banque du Canada a à son tour baissé pour la première fois depuis 5 ans son taux directeur d'un demi-point hier de 1,75 à 1,25%.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h42 en France, coup de massue pour Uber. La Cour de cassation requalifie en contrat de travail le lien entre la plateforme et l'un de ses anciens chauffeurs. Pour la Cour, l'indépendance de ce dernier était fictive. C'est Uber qui lui apportait la clientèle, qui fixait les tarifs et les conditions de la prestation. Le CEO d'Uber en Californie, Dara Khosrowshahi, a rapidement réagi. Alors selon lui, l'arrêt de la Cour de cassation française ne crée pas un précédent dans lequel pourrait s'engouffrer d'autres chauffeurs VTC. Ce n'est pas l'avis de maître Jean-Paul Tessonnière. C'est l'avocat d'un syndicat de chauffeurs. Il travaille sur 90 dossiers de requalification. Écoutez.
Notre travail va être considérablement facilité. Je suis désormais optimiste pour l'issue des dossiers qui sont en cours concernant Uber, Deliveroo, Le Cab. Ça nous donne la boîte à outils qui permet de trouver des solutions. Jusqu'à présent, on avait des réponses partielles qui ne s'adaptaient pas toujours au cas qui était présenté. Là, on a un arrêt qui passe en revue la quasi-totalité des critères qui sont examinés pour la qualification éventuelle en contrat de travail. C'est vraisemblablement des centaines ou des milliers de dossiers qui risquent d'être concernés, qui sont à l'attente.
Voilà. Maître Tessonnière. Alors, quel coût pour Uber de cette requalification en contrat salarié du lien entre l'un de ses chauffeurs indépendants et Uber? Est-ce que c'est le début de la fin de l'économie de partage? Rien que ça, eh bien, on en parle dans le Focus. Dans le Focus Éco, dans trois petites minutes. La réforme des retraites maintenant. L'Assemblée a commencé hier l'examen du second volet de la réforme, le projet de loi organique. Les députés ont voté cette nuit l'article 1 qui fixe le principe d'une règle d'or sur l'équilibre financier du futur système. Un déficit pourra être toléré sur 1, 2 ou 3 ans, mais devra être lissé afin d'assurer un équilibre sur 5 années. Le texte rappelle aussi que la valeur du point ne baissera pas. La majorité a par ailleurs fermé la porte à la création d'une commission d'enquête sur l'étude d'impact de la réforme. La gauche dénonce un deuxième 49-3. L'actualité des entreprises. La France met son veto à la vente d'une PME, Photonis. La société est le leader français de la vision nocturne. Son propriétaire, le fonds d'investissement Ardian, le fonds français Ardian, était en train de la vendre à une société américaine qui s'appelle Teledyne. Mais les ministres de l'économie et des armées ont dit non. Le gouvernement veut que Photonis, qui travaille avec l'armée française, reste souveraine. C'est aussi l'avis de Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis.
C'est évidemment en mobilisant les entreprises françaises, qui elles-mêmes œuvrent dans le domaine de la défense, qu'on peut éviter un rachat par l'industrie de défense américaine, qui ensuite nous le fera payer très cher, aussi bien sur un plan financier que sur un plan de l'indépendance, parce qu'à chaque fois qu'ils vendent des technologies militaires, ils mettent des conditions, ils mettent des obligations que nous devons remplir, voire même des interdictions de s'en servir dans tel ou tel cas. L'arme laser est une arme de demain que nous avons besoin de pouvoir maîtriser et dont la technologie se trouve aujourd'hui en germe à l'intérieur de cette entreprise Photonis notamment.
Voilà, le député UDI Jean-Christophe Lagarde. Question maintenant, qui pour racheter Photonis? Safran, Thales et BPI France ont été approchés. Enfin, Facebook révise drastiquement les ambitions de son projet Libra. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Voilà, il n'est plus question pour Facebook avec Libra d'une monnaie virtuelle, un concurrente des monnaies officielles, mais en fait d'un simple système de paiement. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà, eh bien, il s'agit d'éviter tout passage en force de nature à braquer les régulateurs. Libra est censé offrir un nouveau mode de paiement en dehors des circuits bancaires traditionnels permettant d'acheter des biens ou d'envoyer de l'argent aussi facilement qu'un message instantané. En octobre dernier, certains partenaires importants du projet comme Visa, Mastercard et eBay ont préféré jeter l'éponge. Dès le départ, les banques centrales et les régulateurs étaient opposés à l'idée qu'une poignée d'entreprises privées s'arroge le pouvoir de battre monnaie et d'influer sur des politiques monétaire. Facebook a tenté de dissiper les craintes sur de potentielles utilisations malveillantes de la monnaie et la protection de données personnelles. En vain, officiellement, le projet Libra n'est pas abandonné. Il est désormais question d'un service de paiement acceptant des devises traditionnelles comme le dollar et l'euro, un peu comme une plateforme de paiement du type PayPal. On est bien loin, vous le voyez, de l'ambition de départ qui visait à créer une monnaie globale et décentralisée.
Merci Eric Mauban. La Bourse de Paris, pour finir, elle reprend des couleurs, plus 1,33% au fixing hier soir, 5 464 points, séance clairement dans le vert, la volatilité baisse un peu, en hausse signalons Soitec qui regagne plus de 7%, en revanche Air France en perd un peu plus de 3%, Airbus moins 1%, Wall Street dans le vert également, rassuré par le retour de Joe Biden, net vainqueur du Super Tuesday. Le démocrate plaît nettement plus au marché que Bernie Sanders, très fort rebond donc du Dow Jones qui gagne plus de 4,5% et retrouve le niveau des 27 000 points. À noter deux introductions en bourse reportées, celle de Warner Music et du fabricant de chaussures Cole Haan. Et oui, les conditions de marché sont un peu compliquées en même temps. Airbnb également pourrait décaler son IPO qui était prévu fin mars, début avril. Tout de suite, quelles conséquences pour Uber de la décision de la Cour de cassation? On en parle avec un spécialiste.